Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes un samedi, le samedi 18 mars 1815, en plein Paris, on n'est pas très loin de l'Institut de France, un homme est là qui se fraye un chemin dans la cohue, qui se dirige vers les locaux du journal des débats, et dans sa serviette, il tient le dernier article de Benjamin Constant. Il faut absolument publier cet article, le temps presse, Napoléon se rapproche de Paris, je vous ai dit, nous sommes le 18 mars 1815, et les Parisiens ont les yeux sur leur gazette pour voir où se trouve l'ancien empereur revenu de l'île d'Elbe. Constant veut à tout prix donner son avis. Il soutiendra le roi, quoi qu'il arrive, et il appelle tout le monde à faire de même. Dans les colonnes du journal des débats du 19 mars, voici ce qu'on peut lire sous sa plume. Du côté du roi est la liberté constitutionnelle, la sûreté, la paix. Du côté de Bonaparte, la servitude, l'anarchie et la guerre. Et il conclut « Je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme et balbutier des mots profanés pour racheter une vie honteuse. » Oh, je vous relis ces deux phrases parce qu'elles sont incroyables. « Je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme et balbutier des mots profanés pour racheter une vie honteuse. » Il est vrai que par le passé, les relations entre Benjamin Constant et l'empereur ont été mauvaise. Constant était perçu comme le chef de l'opposition libérale et Napoléon l'avait écarté des chambres parlementaires et l'avait forcé à quitter Paris. C'est donc très logiquement que Benjamin Constant s'oppose au rétablissement de l'Empire. Selon voilà, le jour même de la parution de son article, le roi Louis XVIII quitte la capitale et le lendemain matin, on est donc le 20 mars 1815, c'est Napoléon qui est de retour à Paris, qui est de retour aux Tuileries. Là, Benjamin Constant est comme pris au piège. À tout moment, il peut se faire mettre aux arrêts. Seulement, les jours passent, personne ne vient l'arrêter. La réalité, c'est que Napoléon a compris qu'il ne peut pas rétablir l'Empire tel qu'il existait au moment de sa chute un an plus tôt. Il a bien l'intention de donner aux institutions impériales un tournant libéral et pour ça, il va faire appel à celui qui jusqu'alors était un opposant pour lui. Il va faire appel à Benjamin Constant. Et incroyable mais vrai, le libéral en question va accepter ce mandat et il va rencontrer l'ancien empereur devenu, on ne sait plus trop quoi, enfin devenu l'empereur des 100 jours, mais ça on ne le sait pas encore, il va le rencontrer à plusieurs reprises. On voit les deux hommes qui se promènent dans la nouvelle résidence officielle du souverain, les jardins, le palais de l'Élysée, donc on les voit dans les jardins de l'Élysée avec se lançant dans de grandes discussions sur les institutions qu'il s'agit de mettre en place. Benjamin Constant, dont la santé est assez chancelante, s'appuie sur une canne tandis que Napoléon, lui-même, marche d'un pas un peu traînant. Ce n'est plus le Napoléon de toutes les victoires. Le 22 avril 1815, le travail de Constant s'achève, l'axe additionnel aux constitutions de l'Empire est promulgué, on va très vite surnommer cet acte la Benjamine, parce que tout le monde a bien compris de quoi il s'agit. C'est une constitution qui est très libérale, la plus libérale en quelque sorte qu'ait jamais connue la France à cette époque. Elle ne sera jamais appliquée, cette constitution, puisque vous savez que pour la deuxième fois, Napoléon va abdiquer 2 mois plus tard, après le désastre de Waterloo, le 18 juin 1815. Et ce sera le retour du roi Louis XVIII avec la seconde restauration. Et Benjamin Constant, là, va quand même devoir fournir quelques explications.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est évident que l'attitude de Constant pendant les 100 jours est la cause de toutes les moqueries. Ça va le suivre et le poursuivre. Benjamin Constant devient Benjamin l'Inconstant. Il possède une place de choix dans le dictionnaire des girouettes. Vous savez, qui fait la liste de tous ceux qui ont changé, qui ont retourné leur veste. Une chanson satirique à son propos se met à circuler. On est en France, ne l'oubliez pas. Le matin royaliste, je dis vive Louis. Le soir bonapartiste, pour l'empereur, j'écris. Suivant la circonstance, toujours changeant d'avis. Je mets en évidence l'aigle ou la fleur de lys. Pour se défendre, Constant va publier un texte qui s'appelle « Mémoire sur les 100 jours ». Il dit qu'il n'a jamais abandonné la monarchie, c'est la monarchie qui est partie. « Les constitutionnels n'ont pas déserté une cause », écrit-il. « Ils ont été désertés par une cause. Ceux qui avaient voulu entourer le roi constitutionnel virent que le sol allait être envahi et que c'était le sol qu'il fallait préserver. On m'a reproché de ne m'être pas fait tuer auprès du trône que le 19 mars j'avais défendu. C'est que le 20, j'ai levé les yeux, j'ai vu que le trône avait disparu et que la France restait encore. Mais c'est une défense qui n'a pas beaucoup d'effet. Le 19 juillet, Benjamin Constant apprend qu'il est sur une liste d'ordres d'exil qui, d'un moment à l'autre, doit être rendue publique. Il écrit une lettre au roi Louis XVIII afin d'expliquer sa conduite. Il reprend les mêmes arguments que dans l'article et le roi finit par faire retirer le nom de Constant de la liste des exilés. Mais dans ce climat politique aussi hostile que celui de l'époque, avec notamment ce qu'on appelle la terreur blanche, Constant se dit que rester dans le pays est peut-être un peu dangereux. Il va rejoindre sa femme à Bruxelles et après quelques mois, le couple décide de partir pour Londres. Léonard Burnand fait paraître une belle biographie de Benjamin Constant aux éditions Perrin. C'est ce qui me donne l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Il écrit « Le couple Constant quitte le port d'Ostende le 24 juillet 1816 et débarque à Douvres le lendemain. À son arrivée à Londres, deux jours plus tard, Benjamin constate que le paysage urbain a radicalement changé. Cela fait bientôt 30 ans qu'il n'est plus venu dans la capitale anglaise et il est frappé par les transformations spectaculaires que cette ville en pleine expansion a connues durant cette période. L'accroissement considérable de la population fait de Londres la plus grande agglomération du monde. Dans cette métropole surpeuplée, il est difficile de trouver un logement convenable et le coût de la vie est élevé. Ce pays me ruine, se plaint Constant, qui ne s'attendait pas à devoir débourser autant d'argent pour louer une petite maison dans les faubourgs. C'est outre-Manche, désormais, que va vivre Benjamin Constant. C'est là-bas, c'est en Angleterre, qu'il va devoir préparer un retour en France qu'il espère bien le plus glorieux possible. Maria Zimmermann au piano et Regula Küffer à la flûte, accompagnée par l'orchestre de chambre de Berne, sous la direction de Matthias Kuhn, interprétait ce concerto numéro 6 pour piano, flûte obligée et cordes d'une compositrice helvète. Elle s'appelle Caroline Boissier-Butini.
Vous écoutez Radio Classique.
Il était né en Suisse, Benjamin Constant. Il était né à Lausanne, d'une famille de huguenots qui avait fui l'édit de Nantes, enfin la révocation plus exactement, en 1685, et s'était installé là-bas en Suisse. Lorsqu'il est né, sa mère est morte en couche, donc ça a été évidemment dur pour lui. Il a suivi son père, qui était colonel d'un régiment suisse, à travers toute l'Europe. Il a énormément voyagé, autant dire que lorsque, en 1815, il se retrouve à Londres, pour lui, ça n'est pas un dépaysement total. Il connaît très bien l'Europe, il sait ce que c'est que faire des malles et vivre comme ça d'un pays à l'autre, et j'allais dire d'une aventure à l'autre, car sa vie sentimentale est extrêmement nourrie de ce point de vue. Alors, le voilà donc à Londres, Benjamin Constant, reçu dans de nombreux salons. Pour continuer à assurer un train de vie à sa hauteur, il doit trouver de nouvelles sources de revenus. Et pour ce faire, il va sortir de ses cartons un manuscrit qu'il avait en réserve. Bon, ça fait 10 ans qu'il écrit ça, et ça s'appelle « Adolphe ». Adolphe, c'est un jeune homme de 22 ans qui séduit Éléonore simplement pour tromper son ennui. Vous voyez, nous sommes dans quelque chose de très romantique, drame contant l'histoire d'un amour difficile, voire impossible. Beaucoup diront que l'histoire évoque la relation que Constant entretient lui-même avec Madame de Staël, tout simplement. On pourrait d'ailleurs trouver dans Adolphe un certain nombre de références à d'autres aventures sentimentales de Benjamin. Avant de publier ce texte, Constant le lit dans les salons pour voir un petit peu comment les gens le reçoivent. Et c'est un immense succès. Miss Mary Berry écrit par exemple dans son journal « C'est très bien écrit, une histoire triste et bien trop vraie du cœur humain. La lecture a duré 2 heures et demie, la fin était si touchante qu'on avait grand-peine à retenir ses larmes. » En juin 1816, il paraît simultanément à Londres et à Paris ce roman qui bien vite va trouver son public. Il sera constamment réédité. Par la suite, 150 rééditions en langue française en 2 siècles. C'est un très grand succès. Le couple, à ce moment-là, quitte Londres parce que la santé de Charlotte est fort dégradée par la brume londonienne. Charlotte, c'est l'épouse de Benjamin Constant, pardon. Les voilà qui partent donc en cure, à Spa. Le couple s'installe ensuite de nouveau à Paris à partir d'octobre 1816. On peut pas dire que la politique française soit encore un motif de crainte pour Benjamin Constant. Les libéraux saluent son retour, évidemment. Dans sa biographie, Léonard Burnand écrit, je le cite, « Un an auparavant, il avait préféré quitter Paris quand les ultras, avides de vengeance, avaient remporté les élections. À présent que le courant réactionnaire a été contrecarré par le monarque et ses ministres, un horizon inespéré s'ouvre à nouveau pour Benjamin, lequel entrevoit subitement la possibilité d'un retour aux affaires publiques à la faveur du virage centriste qui semble s'amorcer. Durant son séjour à Londres, il était allé assister au débat parlementaire et avait été enthousiasmé par la qualité des délibérations qui se tenaient à Westminster. » Pour le moment, Benjamin Constant s'investit dans ce qu'il sait le mieux faire, des chroniques. Il est journaliste. En janvier 17, il reprend en main le journal Le Mercure de France. Et avec tout ce qu'il a gagné dans Adolphe, eh bien, il fait un investissement. Il va investir dans ce journal. Journal qui va d'ailleurs avoir tout de suite un immense succès. Constant écrit à sa sœur « Je suis écrasé de travail et d'affaires. L'entreprise que j'ai faite de relever presque à moi seul un journal tombé pour m'en servir comme d'un cadre afin de répandre beaucoup d'idées que je crois utiles me donne d'autant plus de peine qu'elle a eu plus de succès et que ce succès m'y attache. » Eh oui, ça c'est l'engrenage, qu'est-ce que vous voulez? Plus ça marche, plus on est pris, mon cher Benjamin Constant. C'est ce rôle, en tout cas, de journaliste d'opinion qu'il va se donner pendant plusieurs années. Il diffuse partout les idées libérales, écrivant sans cesse, écrivant le jour, écrivant la nuit, et commentant une actualité dans laquelle il ne se reconnaît pas et à laquelle il essaie de proposer des alternatives. En 1817, il prend fait et cause pour un ancien jacobin qui vit dans l'Eure et qui est accusé d'avoir assassiné une veuve pour en récupérer l'héritage. Constant est persuadé que ce Wilfried Regnault, dont j'aurai peut-être un jour l'occasion de vous parler, est accusé uniquement parce que son passé révolutionnaire ne plaît pas aux autorités du moment. Et ça fait un petit peu penser à la façon dont Voltaire avait pris fait et cause pour la famille du malheureux Calas. Constant souhaite mener son combat, il obtient la transformation de la peine de mort qui avait été infligée à Wilfried Regnault, tout ça est commué en 20 ans d'emprisonnement. Et là, c'est le malheur, puisque Germaine de Staël se meurt. Elle refuse que son ancien amant la voie dans l'état où elle est maintenant, et après 5 mois de calvaire, celle qui avait été la fille de Nècre va s'éteindre le 14 juillet 1817. Constant est autorisé à venir la voir sur son lit de mort le soir même. Victor de Breuil, le gendre de Madame de Staël, écrit « Benjamin Constant vint m'y trouver et nous veillâmes ensemble au pied du lit de Madame de Staël. Il était touché au vif et sincèrement ému. Après avoir épuisé les souvenirs personnels et les regrets du passé, nous consacrâmes de longues heures aux réflexions sérieuses. Tous les problèmes qui s'élèvent naturellement dans l'âme en présence de la mort furent agités en nous. » Funérailles de Madame de Staël et après, Constant va écrire 2 longs articles à la mémoire de celle qu'il a aimée et dans lesquels se ressent l'absence douloureuse que provoque sa mort. Le seul remède, c'est une activité peut-être plus intense encore dans le journalisme et la politique, les journaux qui se vendent de mieux en mieux. En octobre 18, Constant se présente aux élections législatives dans le département de la Seine, mais le gouvernement modéré de l'époque, qui déjà est en but aux politiques ultra, c'est-à-dire pas du tout modéré, parvient à faire échouer sa candidature. Il se lance alors dans une série de conférences qu'il va donner à l'Athénée Royal de Paris. On s'arrache les places pour assister à ces conférences, dont la plus célèbre est donnée le 20 février 19 et s'intitule « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes ». On a envie de dire tout est dit. Je cite un extrait de la conférence. « Le danger de la liberté antique était qu'attentif uniquement à s'assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles, dit Benjamin Constant. Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbée dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. » Voyez à quel point cette phrase est incroyablement juste encore 2 siècles plus tard. Cette conférence va rencontrer un grand succès, on l'imprime, c'est un petit peu l'Adolphe de l'œuvre politique de Constant, si l'on peut dire, pour ce qui est du succès. Et 1 mois plus tard, élection législative partielle, en tout cas c'est ce qui est prévu. Cette fois-ci, Constant a bien l'intention de ne pas laisser passer son tour. L'ouverture du Fra Diavolo de Daniel François Esprit Aubert. L'orchestre philharmonique de Moravie était sous la baguette de Dario Salvi.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Élection partielle, donc, elle a lieu dans la Sarthe, mais Benjamin Constant ne regarde pas l'endroit, il veut un siège de député. On est là le 26 mars 1819, et c'est vrai que dès le premier tour, il l'emporte avec 64% des suffrages, ce qui va lui permettre de changer de vie, puisque le voilà maintenant au sein même de la Chambre des députés, où il siège à gauche, hein, aux côtés de Lafayette. Dès les premières semaines, il va devenir la figure de proue de ce qu'on appelle l'opposition libérale. il vient à la chambre un public considérable, exactement le genre de public qui venait à l'Athénée royale pour suivre les conférences de Benjamin Constant. Ce public est aussi nombreux qu'enthousiaste, écrit Léonard Burnand. Les joutes parlementaires de la Restauration deviennent le nouveau rendez-vous à la mode. Les débats de la chambre passent pour l'un des meilleurs spectacles de Paris. On se dispute les billets d'entrée aussi ardemment que les places de l'opéra. Les spectateurs qui font la queue pour assister aux séances et qui apportent souvent leur lorgnette comme s'ils venaient au théâtre s'attendent à savourer de grands morceaux d'éloquence. Les discours politiques du jour alimentent ensuite durant la soirée les conversations qui animent les salons et les cafés de la capitale. Et dans un tel contexte, chaque député espère s'illustrer en remportant un succès oratoire. Nouvelle instance de consécration, la chambre est une espèce de baromètre du talent. Avant la Révolution, un homme d'esprit écrivait des vers. Sous la Restauration, il se doit d'être député. Le premier combat de Constant est un combat pour la liberté de la presse. Ça, c'est un grand sujet qu'il connaît par cœur, évidemment. Long silence à la tribune lorsqu'il s'exprime pour la première fois. Je vous donne une description qu'un contemporain nous livre. Il est, de tous les orateurs de gauche, le plus spirituel, le plus ingénieux, le plus fécond. Il avait un corps fluet, des jambes grêles, le dos voûté, de longs bras. Ses cheveux tombaient sur ses épaules et encadraient agréablement sa figure expressive. Quand il improvisait, il s'appuyait des deux mains sur le marbre de la tribune et il précipitait le flux de ses paroles. Souple lutteur, il se repliait en 100 façons avec une torsion des reins incroyable et ne s'avouait jamais vaincu. Il était toujours maître de son expression comme de sa pensée. Constant va se saisir de toutes sortes de sujets. N'oubliez pas qu'à partir de 1820, avec la mort du duc de Berry, l'assassinat du duc de Berry, la Restauration se durcit. Decazes est parti pour l'Angleterre. J'ai déjà eu l'occasion de vous raconter ça. Et pour diffuser ses idées dans le pays, voilà que Benjamin Constant va fonder un nouveau journal qui s'appelle La Renommée. Et de nouveau, c'est un très grand succès.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Léonard Burnand écrit submergé de travail durant la journée en raison de ses obligations parlementaires. Benjamin écrit souvent ses articles pendant la nuit. Mené entre le crépuscule et l'aube, cette activité s'apparente parfois à une course contre la montre. Et ça va durer comme ça pendant toute une décennie, jusqu'à sa mort. Constant va devenir une sorte d'icône pour la jeunesse libérale. Peu à peu, son visage apparaît partout, sur les tabatières, sur les foulards, les éventails, les cannes, les pipes, les boutons de manchette, même les poignées de parapluies, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission. En 1830, quand éclatent les événements révolutionnaires qui vont chasser Charles X du trône, vous savez, le député libéral est, ai-je besoin de vous le dire, au premier rang. Il fait partie de ceux qui vont installer Louis-Philippe sur le trône. Louis-Philippe d'Orléans, Constant, Lafayette sont là qui accompagnent le duc d'Orléans à l'hôtel de ville. Et c'est de là que le nouveau monarque va se faire acclamer, vous savez, par les révolutionnaires. Et Constant, en vérité, n'aura pas le temps d'observer la politique de ce roi citoyen, de ce roi libéral, roi des Français, puisque sa santé à lui se dégrade très vite dans les derniers mois de l'année 1830. Il n'a que 63 ans à l'époque, mais il a tellement, tellement travaillé, tellement veillé, qu'évidemment il s'est usé, il multiplie les cures, les bains, mais c'est trop tard. Et très vite, sa santé vraiment la lui échappe. Le 8 décembre 1830, 8 décembre 30, à 5 heures de l'après-midi, il va rendre son dernier souffle et 4 jours plus tard, pour l'accompagner jusqu'au Père Lachaise, où il repose encore, ce ne sont pas moins de 150 000 personnes qui, bien tristes, vont défiler dans Paris.
Vous écoutez Radio Classique.
Je pense que le moment serait bienvenu là d'accueillir Christian Morin. Ça peut se faire cette affaire-là. Bonjour, cher Christian.
Et pourquoi pas. Bonjour, mon cher Franck. Vous n'avez jamais rêvé d'avoir votre portrait sur.
Je croyais que vous alliez parler du Père Lachaise. Non, je ne vais pas rêver d'être.
Non, le Père Lachaise. Attendez, encore que vous n'êtes peut-être pas en cet endroit-là, sait-on jamais. Avez-vous prévu quelque chose?
Pas précisément. Pas précisément. Contrairement à certains de mes amis qui sont très au point sur le sujet, mais moi pas tout à fait.
Vous disiez à l'instant, un homme d'esprit se devait d'écrire des vers, et aujourd'hui un homme d'esprit se doit d'être député à propos de ce Benjamin Constant, mais est-ce que On pourrait imaginer aujourd'hui que les députés se remettent à devenir des poètes.
Ah, mais pourquoi pas ? Certains d'entre eux le sont, d'ailleurs. Mais nous ne dénoncerons personne.
Non, mais encore que, c'est pas une délation trop désagréable dans ce sens-là. Merci beaucoup, mon cher Franck. On vous retrouve demain matin, dès 9h, avec joie. Et je vous souhaite une excellente journée.